Ma collègue de Montréal, Sabrina Rivet, bonjour.
Salut Robert.
As-tu lu 1984? Big
1984.
Brother vous regarde.
Ah oui.
Hein? Et mais c'est ton sujet, en fait.
C'est
c'est
mon
quand je t'ai
sujet.
entendu, là, c'est exactement ça. Là, on va pister les êtres humains pour savoir d'où ils arrivent, où ils vont, quasiment qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, avec qui ils se tiennent.
Oui, mais en fait, techniquement, je vous le mets au jour aujourd'hui, là, mais c'est pas nouveau, là. C'est-à-dire que lorsque vous téléchargez des applications sur votre téléphone cellulaire, souvent, ça va vous demander, dans les petits caractères, là, bien évidemment, là, ça va vous demander est-ce que vous acceptez de partager votre donnée de géolocalisation? Et nous, ce qu'on va faire, c'est oui. Alors, ces entreprises-là, par la suite, peuvent vendre vos données de géolocalisation à d'autres
C'est
entreprises
ça qui est
qui les
incroyable. C'est
achètent.
ça. Quand je t'ai entendu dire ça, j'ai dit, ça n'a
Ouais.
pas d'allure, il faut y parler. Ça n'a pas de bon sens, là. Là, on est en train d'instaurer la loi martiale.
Mais est-ce que ça pourrait nous donner un coup de pouce, ces données de géolocalisation-là, pour contrer la COVID-19? C'est en tout cas le pari d'une entreprise ici de Montréal, une entreprise, une start-up qu'on appelle, qui a été fondée en mai 2017, donc ça fait près de 3 ans. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils achètent des données de géolocalisation à des entreprises, des applications. Donc, eux, ils ont une très, très grande base de données. Et toutes ces informations-là, ils veulent les donner soit à différents paliers de gouvernement, donc soit municipal, provincial ou également fédéral, parce qu'ils disent qu'avec le mouvement de la population, on pourrait peut-être tenter d'établir en fait une courbe épidémiologique au niveau de la COVID-19. Alors ça, c'est le pari qu'ils se
Oui.
sont donné.
Ça, je veux pas te troubler avec ça, moi, Sabrina,
Ouais.
puis là, je vais te laisser aller après, là.
Ben
C'est
oui.
juste parce que je bouille un petit peu de l'intérieur.
Pose des
Si,
questions.
non, mais si on utilise les données justement pour contrer la crise actuelle, puis pour guérir le monde, puis ben, pas de troubler avec ça. Mais si on utilise les données pour contrôler les êtres humains, leurs allées et leurs venues, alors qu'on a, c'est dans la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de circuler normalement, c'est là où je commence à me poser de sérieuses questions. On n'en est pas là, mais ça pourrait aller jusque-là.
C'est ce que je m'en allais dire. Pour l'instant, tout ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est une liste, en fait, des déplacements. J'ai quelques exemples là, avec moi. Par exemple, si je prends dans le vieux Montréal, pas dans le vieux Montréal, pardon, mais au centre-ville de Montréal, j'ai eu le droit à certaines données. Si on regarde au début du mois de mars, c'était la semaine de relâche, OK? On a 852 000 points le 4 mars. C'est un mercredi, on est en milieu de semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 852 000 points? C'est des points de connexion. Ça veut dire qu'il y a eu 852 000 connexions au réseau cellulaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a 852 000 personnes qui se sont promenées au centre-ville de Montréal. Ça peut être, par exemple, moi, je marche, je pars du Vieux-Montréal, je me rends dans le centre-ville de Montréal. Une fois, je suis un point de connexion. Je ressors de ce secteur-là, je reviens, je suis un autre point de connexion. Donc, c'est vraiment au niveau des déplacements. Mais ce qu'on peut observer quand même avec ça, c'est que durant la semaine de relâche, bien là, vous comprendrez qu'il y avait beaucoup de monde au centre-ville de Montréal, donc il y a eu des points assez élevés, donc on parle de 852 000 points dans ce secteur-là. Ensuite, ça a légèrement diminué. Ce qu'on observe, vendredi 13 mars, on se souviendra, c'était la fameuse ruée dans les magasins pour le papier de toilette. Ça a été une des journées
Oui,
les plus intenses, là. Bon.
ce sera un grand moment dans l'histoire de l'humanité. Quand
Oui.
on va débriefer là, à la fin, quand
Ouais.
on va faire le résumé de toute cette histoire-là, on va s'en. Le bye-bye. J'ai hâte de voir le prochain
Moi
bye-bye.
aussi.
Comment ils vont faire tourner ça autour du papier de toilette cotonnel? Le chaton va se faire aller.
En tout cas, ils vont pouvoir avoir plusieurs idées pour illustrer le tout. Mais chose certaine, dans les données aussi, on le voit, il y a eu des pointes au centre-ville de Montréal, 123 000 points de connexion. Donc, il y a eu comme une augmentation. Okay? Ensuite, 15 mars, les mesures de confinement ont été décrétées par le premier ministre du Québec, François Legault. Fait que ça, c'est le dimanche, c'est 2 jours après. Et là, on voit qu'il y a eu une certaine effervescence. Donc, les gens qui se sont rués dans les magasins pour aller s'acheter de la nourriture. Et par la suite, on voit que la semaine suivante, donc là, on est rendu le 17, 18, 19 mars, ça a diminué. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que semaine de relâche, il y a eu beaucoup de gens. Ensuite, ça a diminué et ensuite, ça a augmenté. Donc, ce qu'on peut observer là-dedans, c'est que ces gens-là ont possiblement été en contact avec d'autres gens qui pouvaient avoir en fait la COVID-19. Et on sait que les symptômes peuvent apparaître soit dans les prochains jours ou jusqu'à 14 jours. Alors, c'est là dans le sens qu'on peut essayer de prévoir en fait la courbe de la contagion de ce virus-là, de la COVID-19. Et là, tout de suite, quand même, pour que vous tentiez de comprendre, je vais vous laisser entendre Laurent Elkem. Lui, c'est le CEO, le PDG de la compagnie. Alors, on va l'écouter.
Si on a une augmentation des déplacements, ben, nous, on pense qu'il y a une corrélation entre plus de déplacements et plus de chances de contagion. Poussé à l'extrême, ben, s'il n'y avait personne dans les rues, il n'y aurait pas de risque de contagion, pour résumer.
Donc, c'est un peu ce que je vous ai expliqué quand même lors des dernières minutes. Mm-hmm. Mais là, on en parle depuis le début, Robert, ouais. C'est-à-dire qu'au niveau de la vie privée,
ben là,
on a certains questionnements.
Des gros questionnements.
Ouais. Ce qu'on m'a dit, cette compagnie-là, donc Draco Media, m'a dit que les données, les informations qu'elles reçoivent, eh bien, ce sont des données anonymes. Donc, tout ce que la compagnie reçoit, c'est des points de connexion. Donc, ils n'ont pas l'âge ni le sexe, par exemple, des personnes. On voit juste vraiment les mouvements. Okay. Mais quand même, je veux dire, ça provient d'un numéro de téléphone cellulaire.
C'est un début.
Effectivement, s'ils veulent chercher plus loin, ils pourraient chercher plus loin. J'en ai discuté avec un expert en cybersécurité, Jean-Philippe Descaries, et je lui ai demandé, est-ce que ça serait une bonne idée quand même d'utiliser des données de géolocalisation en temps de COVID-19? On va l'écouter.
Toutes ces informations-là qu'on génère sans même d'interaction de notre part, juste en ayant un téléphone cellulaire dans nos poches puis en ayant une application spécifique installée, ben ça, c'est de l'information qui a son pesant d'or, particulièrement dans une crise comme celle-là. Maintenant, c'est ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire avec cette information-là par la suite? Donc, c'est extrêmement inquiétant.
C'est le après qui est inquiétant, parce qu'à la limite, ben on se dit, si c'est un outil qui peut nous permettre de nous aider d'éviter la contagion ou de voir un peu le portrait des prochaines semaines avec les données cellulaires, bien, ça peut nous aider dans l'immédiat. Mais c'est après, un coup que les gouvernements, disons, vont avoir eu accès à nos données, bien, il n'y a rien qui nous dit qu'ils ne vont pas continuer, techniquement, d'utiliser ces données-là et de nous suivre à la trace. Alors, c'est vraiment ça qui est plus inquiétant. Fait que c'est un pensez-y bien. Donc, est-ce qu'on veut? Puis, dans des moments de crise aussi, ce qu'il me disait l'expert en cybersécurité, c'est que dans des moments de crise aussi, on peut dire oui pratiquement à tout parce qu'on veut tellement s'en sortir et on se dit, ça semble être un remède miracle, disons. Et là, on va dire oui, même si on bafoue un peu mes droits, j'accepte qu'on me suive, etc., etc. Mais il faut quand même, c'est un pensez-y bien pour après. Puis, te dire également que ça se passe déjà quand même en France et en Italie, mais c'est encore plus poussé. Là, c'est poursuivre les gens, disons, qui sont en confinement et qui ont à sortir, disons, pour se rendre à l'épicerie. Mais là, on peut voir leur trajet, puis on voit qu'ils passent pas et qu'ils font pas un détour, par exemple, par chez le beau-père ou le grand-père pour quand ils font des déplacements. Fait qu'on n'est pas rendu là.
Tu sais, l'histoire d'horreur, Sabrina, là, t'imagines, tu sors de chez vous, tu t'en vas chercher ta pinte de lait, et là, il y a un drone qui arrive au-dessus de toi, OK? Hey, Robert! Oh, tu fais là!
Qu'est-ce que tu fais? On te surveille, Robert!
Ouais, salut!
Hey, ciao, Robert!
Bye-bye!
Bye!